Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. En mai dernier s'achevait la dernière saison de Game of Thrones, ou Trône de Fer pour les Français. Si après cet ultime épisode, vous faites partie de ceux qui se sont roulés sous la couette de frustration, ou que vous avez ce genre d'énergumène dans votre entourage, j'ai des idées cadeaux à vous proposer pour continuer à explorer l'univers de l'auteur. C'est parti. George R. R. Martin est un écrivain de 71 ans, américain, qui a débuté sa carrière en 1970 avec son premier texte publié dans un fanzine. Il est journaliste de formation et son activité s'étend également à être producteur et scénariste pour le cinéma. Depuis 1973, il est nominé à des prix prestigieux dans le genre de la science-fiction, comme le Nebula et le Hugo, mais n'en gagne aucun. Bon joueur et apparemment pas dénué d'humour, il crée avec son comparse Gardner Dozois la soirée des losers du prix Hugo pour les nominés qui n'ont pas remporté le prix. Il écrit dans le genre du fantastique horreur, la fantasy et la science-fiction sans distinction et dès 1986, il a scénarisé quelques épisodes de séries télé comme The Twilight Zone, Beauty and the Beast, son roman Night Flyer, est adapté à la télévision en 1987. Frustré par le milieu de la télé, il claque la porte en 1991 pour se consacrer entièrement à l'écriture. Le Trône de Fer naît de ce désir de faire quelque chose à grande échelle sans se faire restreindre par une question de budget et de temps imparti pour un épisode. L'avenir va le rattraper sur cette question, on le sait. Cette saga fleuve est fortement inspirée par notre histoire européenne. Il faut lire « Les rois maudits » écrits par Maurice Druon pour s'en faire une idée. Pour cet épisode, j'ai arrêté mon choix sur 4 romans et un recueil de nouvelles. Le premier roman que j'ai envie de vous présenter, c'est « River Dream ». Mon édition est celle de Mnemos qui date de 2012. Mais sachez qu'il a été réédité en septembre dernier chez Pygmalion sous le nom de « Rêve de Fèvre ». Dans ce roman, l'auteur nous plonge dans l'Amérique au temps de l'esclavage sur le Mississippi. L'histoire débute en 1857 et nous fera voir plus ou moins les 13 années suivantes, la guerre de sécession et jusqu'aux années fin 1870, début 1880. Les échos de l'histoire sont assez ténus, ce qui intéresse Martin ici, c'est le Mississippi lui-même, ses bateaux à vapeur qui sont très détaillés et qui servent au transport de marchandises et de voyageurs. On suit le capitaine Abner March, qui n'a plus de capitaine que le nom, car toute sa flotte, ou presque, a été ou incendiée ou accidentée par des blocs de glace pendant l'hiver. Il est ruiné. C'est dans cet état d'esprit morose que Abner se rend à un curieux rendez-vous. Un jeune homme très pâle, Joshua York, lui propose de s'associer avec lui. Il a une très forte somme d'argent, de quoi redresser la barre, et permettre à Abner de se refaire et réaliser son rêve, battre l'Éclipse, un vapeur concurrent à la course. Joshua lui montre un petit coffre rempli d'or et tous les rêves d'Abner sont à sa portée, à la condition que le capitaine laisse passer toutes les excentricités de son nouvel associé. Abner sent bien que tout cet argent contre l'exigence de ne pas poser de questions sur ce qui pourrait lui sembler bizarre doit cacher un truc pas net. Mais le désir de réaliser son rêve est plus fort. Marché conclu. Mais bientôt, le capitaine March ne peut s'empêcher de s'apercevoir qu'il y a des trucs étranges. Son associé et ses invités, qui ne sortent de leur cabine qu'à la nuit, et le sillage macabre sur lequel navigue le rêve de Fèvre, lui font revenir sur sa parole. S'ouvre un monde basculant doucement, au rythme du fleuve, vers l'horreur. Ici, George Martin s'est approprié le mythe du vampire. Entre science et croyance, il a créé une race à part entière qui se nomme Gens de la Nuit, avec deux protagonistes. York, qui veut créer un pont avec les gens du jour, et Damon, qui considère les humains comme du bétail. J'ai été amusée par les arguments des uns et des autres. Un antispéciste d'aujourd'hui ne les aurait pas reniés. Si vous souhaitez une histoire avec des vampires bien sanguinolentes, River Dream, aka Rêve de Fèvre, pourrait vous plaire. Garantie sans paillettes. Le second roman que je vous présente, c'est Skin Trade. Ce court roman de 196 pages va ressortir en décembre chez ActuSF dans une magnifique édition. On y trouve une préface d'Emmanuel Chastelière qui m'a bien aidée à préparer mon petit speech sur l'auteur. Merci à lui. Après les vampires, George Martin s'attaque au mythe du loup-garou. Willy Flambeau, notre héros, fait partie du clan de loup-garous de la ville, mais préfère vivre de son côté. Petit beauf dans l'âme, autant à la ville que sous la fourrure miteuse de son loup intérieur, il a une autre identité, pas franchement plus flatteuse, celle d'agent de recouvrement, bref, pas très aimé le mec. Un soir où il allait retrouver sa petite amie, il sent une forte odeur de sang et voit de nombreux véhicules de secours où vit Joanie. Il s'enfuit. Randy Wade est une détective privée et amie de Willy. Elle accepte de mener l'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé et vérifier que son ami n'est pas dans la liste des suspects de la police. En faisant ses recherches, Randy se rend compte que tout le monde lui ment et l'incite à abandonner l'affaire. Mais le meurtre suivant et l'attaque que subit Willy accélèrent les choses. Randy voit ses souvenirs ravivés par les événements. Et si les meurtres d'aujourd'hui étaient liés aux disparitions d'enfants sur lesquels son père enquêtait avant d'être assassiné? Avec le métier de Willy, qui est agent de recouvrement, l'auteur en profite pour revenir sur le système financier américain et sa critique sur cette société basée sur l'endettement des ménages pour inciter à la surconsommation constante, avec l'envoi de cartes de crédit dans les boîtes aux lettres et les Américains incités à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Willy est plutôt sympa et touché par certaines situations, donnant des conseils pour aider. Ce récit fantastique glisse aussi dans l'horreur et j'aime beaucoup la conclusion. La vengeance est un plat qui se mange froid. Maintenant, c'est au tour du recueil de nouvelles Dragon de glace. Il se trouve sous deux formats. Soit vous prenez Dragon de glace illustré par Louis Royot chez Flammarion, et dans ce cas, il n'y a que cette nouvelle. Soit vous prenez Dragon de glace édité chez ActuSF et vous aurez 4 nouvelles. C'est ce recueil que je vais vous présenter. Il est également ressorti en format poche cette année. Ces nouvelles ont toutes été écrites dans les années 80. Dragon de glace, c'est une nouvelle dans le genre de la fantasy. Notre petite héroïne, Adara, a 7 ans. Fille de l'hiver et habitée par celui-ci, elle est la seule à voir le dragon de glace et elle peut le toucher et monter sur lui pour voler. Ce froid engourdit ses sentiments et sa famille a du mal à la comprendre. En dehors de ce petit univers hivernal, il est question d'un royaume constamment en guerre avec des chevaliers et des dragonniers. Ce conte n'est pas pour les enfants. Il s'y passe des choses très dures. Le petit univers d'Adara va cesser avec l'âge de raison et le choix qu'elle fera. Deuxième nouvelle, dans les contrées perdues. Contrairement à Dragon de glace, cette nouvelle est sombre d'emblée, bien que teintée de merveille. Dans cette histoire vit une reine, Dame Mélange. Belle, jeune, riche, veuve, une liberté lui permettant nombre d'amants. On pourrait penser qu'autant de bonnes choses dans la vie la comblent de bonheur. Eh ben non, elle désire quelque chose qu'elle n'a pas, le pouvoir d'Alice la Grise, le don de métamorphose. Mais il y a un adage pour parler de cette autre femme. Alice la Grise obtient toujours tout ce qu'on désire, mais ça n'apporte jamais le bonheur. Faire commerce avec Alice la Grise est à ses risques et périls. Géret le Bleu, champion et amant de Dame Mélange, se rend chez Alice avec 2 requêtes. Celle de la reine, qui demande le don de métamorphose, et la sienne, qui lui réclame d'échouer. Alice accepte les 2 marchés et lui donne rendez-vous dans 1 mois, en route, pour les contrées perdues. La 3e nouvelle est L'homme en forme de poire. Cette nouvelle a obtenu le prix Bram Stoker en 1987. Jessie est illustratrice à son compte et travaille à domicile. Elle vient d'emménager avec sa colocataire Amanda dans un nouvel immeuble dont le sous-sol est occupé par un étrange locataire qui n'aura jamais de patronyme. L'homme en forme de poire, décrit de manière à le rendre grotesque, mais au comportement qui devient de plus en plus bizarre. Jessie le croise souvent et il lui réclame régulièrement de venir chez lui. Elle fait tout ce qu'elle peut pour l'esquiver au maximum et plonge petit à petit dans la paranoïa. Amanda et son compagnon s'inquiètent, se demandant si Jessie n'inventerait pas les problèmes qu'elle pense avoir avec cet homme en forme de poire. Cette nouvelle démarre doucement, nous fait douter de la santé mentale de l'héroïne et nous flanque une grosse claque à la fin. La dernière nouvelle est Portrait de famille. Cette nouvelle a obtenu le prix Nebula en 1985. On rencontre Richard Cantling, qui vit seul dans une grande demeure isolée. Un soir, il trouve un grand paquet sur son perron. En l'ouvrant, il découvre un portrait réalisé par sa fille. Cela fait des années qu'il n'a pas eu de ses nouvelles et prend ce portrait pour un geste de conciliation. Il se dit prêt à lui pardonner quand elle l'appellera enfin. Sauf que ce tableau, et les trois qui suivront, ont quelque chose de spécial. Ils représentent tous des personnages clés de ses anciens romans. Et la première nuit qui suivra la réception de ses portraits, chaque personnage va prendre vie. Et avec ses interactions, on aura droit à plusieurs réminiscences dans le passé de Richard. Finalement, ce pardon, ce n'est pas à lui de l'accorder. Cette victimisation dans laquelle il se complaît n'est pas un reflet de la réalité. Richard est un excellent anti-héros. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Alors, le quatrième ouvrage que je vous présente, c'est Windhaven, écrit à quatre mains avec Lisa Tuttle. Ce roman est paru une première fois en 1999 sous le nom de Elle qui chevauche les tempêtes. J'ai lu la ressortie en 2007 sous le titre original, Windhaven, et j'ai donc vérifié, il est toujours disponible en librairie sur la FNAC ou le site Place des Libraires. Ce roman est de la science-fantasy. Pour vous aider à voir de quoi il s'agit, pensez à Star Wars. On est dans l'espace, donc un monde de science-fiction, mais toute l'intrigue reprend les codes de la fantasy, avec un orphelin et une prophétie. Windhaven est un monde d'eau, d'océan à perte de vue. Des bandes de terre sont dispersées et on rejoint une île à une autre par les airs ou en bateau. Il y a deux peuples, les aériens et les rampants. Ces derniers sont tout simplement les humains qui ne sont pas nés dans la bonne famille. Les aériens doivent leur nom aux ailes de métal et tissus spéciaux en nombre limité, légués par les navigateurs stellaires. Sans plus d'explications, on peut donc imaginer des extraterrestres ou ce qui nous fera plaisir, là n'est pas la question. Les aériens ont créé des traditions autour de ces ailes. Elles ne sortent pas de la famille, sauf accident. Dans ce cas, la mort de l'aérien fait perdre les ailes au monde et pas qu'à sa famille. Ils sont des messagers, la majorité est à 13 ans, et les ailes se transmettent d'une génération à la suivante, quelle que soit sa compétence. Vous commencez à voir le problème ? En tout cas, Maris, oui. Maris est notre héroïne, née rampante dans une famille de pêcheurs, à la mort de ses parents, elle est recueillie par Russ, un aérien qui n'a pas de descendance. Voler, c'est le rêve de Maris, et elle devient extrêmement douée. Problème, Russ et sa femme finissent par avoir un enfant sur le tard. Maris sait qu'aux 13 ans de Cole, elle devra lui céder ses ailes et redevenir rampante. Ce roman parle des rêves de jeunesse, comment se battre pour les réaliser, le poids des traditions, le choc des générations, comment faire bouger toute une société et la pousser à évoluer. Je l'ai lu en 2016, mais je me rappelle d'une lecture très poignante. Et enfin, le petit dernier, Armageddon Rag. Ce livre, c'est celui qui m'a fait découvrir l'auteur vers 2004-2005. Et ouais, tout ça. J'en avais un excellent souvenir, et ma relecture actuelle n'a fait que le confirmer dès le premier chapitre. On est toujours dans les années 80, donc pas de portable, pas d'internet, pas d'ordinateur chez tout le monde. Ma génération s'en souvient. Non, je n'ai pas 50 piges. La dernière publication d'Armageddon Rag date de 2014 et il est toujours trouvable en librairie facilement. Notre héros est Sandy Blair. Écrivain, on le rencontre au moment où il est frappé du syndrome de la page blanche sur son dernier livre depuis un bout de temps. Il est harcelé par son agent littéraire pour rendre son manuscrit dans les délais. C'est dans ce contexte que son passé va s'inviter, par le biais d'un ancien patron de magazine, Jared, qui l'avait viré 7 ans auparavant. Le Hedgehog était spécialisé dans la contre-culture à l'époque. Jamie Lynch, l'impresario et ancienne personnalité de la culture rock, a été retrouvé assassiné à son domicile. Jared demande à Sandy d'enquêter pour faire un reportage spécial revenant sur les moments forts de la carrière de Lynch, ce qui va forcément induire de revenir sur le groupe rock qui l'a rendu riche en 1971, le Nazgul. Ce récit sous forme de road trip dans les États-Unis aura quelque chose de régressif et thérapeutique pour Sandy. Ce sera l'occasion de voir ce que sont devenus les trois membres du Nazgul encore en vie, de se souvenir du drame survenu à West Mesa, en plein concert ayant explosé la carrière du groupe à son apogée, et en fond, ses souvenirs sur les années 68, le mouvement hippie, Woodstock, la guerre du Vietnam et la répression, les violences policières. Dans ce roman, Martine a carrément créé les paroles de chansons du Nazgul. J'avoue que ce roman est mon préféré de tous. Sans doute car il baigne dans la culture rock et hard rock, avec un côté vente de son âme au diable. Voilà, littérature SFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez acheter l'un de ces livres pour Noël, ou n'importe quel autre, n'oubliez pas le site internet Place des Libraires, qui regroupe des librairies indépendantes. On peut commander les livres qui nous font envie et les recevoir soit à domicile, soit à la librairie de notre choix, qui nous envoie un SMS à réception de notre commande. C'est une excellente alternative à Amazon. Je vous donne l'info, à vous de jouer, et à dans un mois pour un prochain épisode. Salut !